Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
La séparation en province, publiée aux éditions Academos. Ce livre a été publié cette année, en 2005, à l'occasion du centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est un ouvrage composé de 21 interventions sur l'application de la loi dans les différentes régions de France en 1905. L'ouvrage est rédigé par plusieurs membres de la Conférence nationale des académies des sciences, lettres et arts. 21 villes ont leur académie. Ces académies sont pluridisciplinaires et comptent un nombre de titulaires élus restreint, en moyenne 3 ou 4 par académie. En 1905, au moment du vote de la loi du 9 décembre, à l'Assemblée nationale, se pose la question de son application dans les différentes régions de France. Quel accueil fut réservé à cette loi dans certains milieux ruraux très imprégnés de religion? Et qu'en est-il dans les villes de province? La France était-elle prête, mûre pour cette séparation? Alors voici quelques anecdotes que nous avons glanées dans cet ouvrage, La séparation en province. En voici une en particulier. Il s'agit du moment où le ministre de l'Instruction publique à l'époque, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, propose dans son village natal une réunion publique sur la séparation.
De passage un dimanche dans son village, le ministre radical propose donc de tenir une réunion publique sur la séparation. Et M. Laziès, de raconter, M. Laziès, député de droite, élu du Gers, on fait donc une réunion sur la séparation et le peuple accourt en foule pour écouter et applaudir le ministre. C'était l'après-midi. Voilà que soudain, trois coups de cloche retentissent. Petit à petit, la salle se vide. Le ministre et notre collègue restent seuls. Et le ministre du culte, ou plutôt le ministre des cultes, de l'interrompre, vous oubliez que la conférence était finie. Le célèbre abbé Guéraud, vous n'avez pas osé la faire pendant les vêpres de peur de n'avoir personne. Monsieur Laziès d'ajouter, la conférence était finie faute d'auditeurs. Le ministre et notre aimable collègue sortent et s'aperçoivent que tout le peuple qui les applaudissait tout à l'heure était entré à l'église. Ils pénétrèrent sur le seuil et ils voient tout ce peuple chantant, mère en tête, l'in exitu. L'histoire ne dit pas si le ministre et notre collègue n'ont pas entonné le Gloria Patri à la fin du psaume.
Pendant les débats et le vote de la loi 1905, une critique en particulier fut adressée aux parlementaires. Il s'agit du jacobinisme de cette loi, du caractère jacobin qui ne permet pas aux collectivités locales d'organiser par elles-mêmes leurs relations avec les églises. Voici comment Jules Dansette, député du Nord, a formulé le plus nettement cette critique.
De loin en loin, nous voyons une loi destinée à donner à la France un peu d'initiative et de liberté. La loi organique de 1871 sur les conseils généraux, la loi municipale de 1884 sont de ce nombre. Mais dès qu'une question touchant la question religieuse est soulevée, l'esprit jacobin reparaît, dominateur, centralisateur, despotique et pour tout dire haineux et sectaire. Vous savez cependant que le fait d'autoriser un conseil municipal ou un conseil général a voté une subvention à un culte ou à un ministre du culte, ne saurait faire obstacle au principe de laïcité de l'État.
Le débat est finalement tranché contre l'avis du député Dansette, mais dans les faits, la séparation des églises et de l'État est loin d'être uniforme en France. Donc ces 21 objets de recherche dans 21 régions en témoignent bien. Curieusement, ce n'est pas toujours dans les régions les plus chrétiennes que la séparation de 1905 fut la plus douloureuse. C'est du moins ce que nous apprend ce livre, La séparation en province. Et les subtilités régionales sont très variées. La région franc-comtoise, par exemple, est décrite comme une terre à la fois patriote, républicaine et libérale, du moins dans les plaines. Dans le Haut-Doubs et le Haut-Jura, l'attachement au Concordat reste fort. Dans la ville de Toulon et dans le Var, la séparation correspond à une dégradation lente de la pratique religieuse. Quant à Lyon, la population est partagée entre la bourgeoisie cléricale et une classe prolétaire travaillant dans l'industrie. Cette ligne de fracture est modifiée par l'émergence d'une catholicité libérale sensible aux discours républicains et socialistes. Seul manquement à toute cette panoplie d'exemples, la région Ouest, Elle est seulement évoquée par les événements dans la ville d'Angers. Pourtant, ce fut dans cette région que les incidents furent les plus graves. Ce livre, La séparation en province, aux éditions Academos, met en avant certaines personnalités locales, notamment des députés, des hommes d'église, qui ont joué un rôle important dans l'acceptation ou le rejet de cette loi. Dans de nombreuses villes, les prélats ont œuvré pour la réconciliation de la loi et de la paroisse. À Rouen, par exemple, Monseigneur Fuset explique la montée de l'anticléricalisme par les liens entre l'Église et la monarchie. Ce raisonnement n'est pas toujours bien compris des paroissiens, mais il fait sens pour le gouvernement. Monseigneur Fuset n'est donc peut-être pas étranger à la rédaction de l'article 4 de la loi sur la gestion des biens ecclésiaux. Autre facteur de débat dans les communes et les villes en province, la presse locale. Il y a les quotidiens régionaux, mais aussi les cahiers locaux du journal catholique La Croix. Le ton et les prises de parti dans ces journaux est souvent d'une virulence extrême. À Toulon, par exemple, la situation est très tendue. La semaine religieuse de Fréjus Toulon ne manque pas de relever les vols, cambriolages et saccages dont font l'objet des églises. De son côté, l'organe républicain Le Petit Var retranscrit les interventions de Georges Clemenceau. Une fois le vote passé, le journal prépare ses lecteurs à un affrontement décisif avec le camp catholique, ce qui n'aura pas lieu.
Dans le parti adverse, le ton est très différent. La modération de l'Église est justement vue comme un signe de faiblesse. Les cagots d'aujourd'hui ont encore de la voix pour hurler. Il leur manque du courage pour agir, clame bientôt Le Petit Var. De jour en jour, les articles se font plus directs et préparent le camp anticlérical à un affrontement. Le long article de Carnot, qu'il nous faut citer ici en partie, est à ce propos très significatif. Il est à présumer que l'attitude du clergé séparé de l'État, placé sous la direction d'évêques soumis à Rome, va devenir plus ouvertement hostile à la République. Au lieu de mourir de sa belle mort, l'Église catholique va en précipiter l'heure par toutes sortes d'imprudences et de provocations. C'est entre autres le combat contre l'instituteur qui, sans doute, va devenir obligatoire pour les curés. Quand on a affaire à des ennemis aussi redoutables, il ne faut pas s'attendre qu'ils frappent les premiers coups. Il faut s'organiser d'avance pour pouvoir les parer sans retard. Carnot conseille donc aux instituteurs de se regrouper en amicales. La loi du 1er juillet 1901 contre les congrégations renfermant heureusement une arme toute nouvelle, mais extrêmement bien trempé pour la défense de nos maîtres d'école. C'est la liberté d'association. Ces amicales permettaient une défense collective en cas d'attaque de la part d'un prêtre. Le choc frontal est même espéré, car on pense qu'il sera préjudiciable à la cause de l'Église. Si le combat s'engage partout, ce sera excellent pour les instituteurs. Ils apparaîtront ainsi aux yeux du peuple comme les hommes les plus utiles pour la République et les plus dangereux pour l'Église, puisque c'est celle-ci qui se flatte de ne pouvoir combattre celle-là qu'à la condition de réserver contre eux ses derniers efforts. Pour alimenter la polémique, Le Petit Var exhume quelques affaires judiciaires récentes mettant en cause des religieux dans le Var ou en France. Les frères des écoles chrétiennes, les religieuses de la Providence. Le moindre incident peut prendre des proportions importantes. À Noël, il s'est trouvé à Toulon un homme qui a construit un petit reposoir religieuso-commercial sur une promenade publique. On donne grande publicité à une conférence des lanterniers anti-religieux le 31 décembre 1905 en l'honneur de la promulgation de la loi de séparation en présence du député socialiste Ferrero. L'orateur, un certain Massoni, secrétaire de l'association, montre l'absurdité des théories enseignées par les apôtres du cléricalisme. Il fait ressortir l'ineptie du baptême et les dangers de la confession et l'absurdité de l'absolution. Enfin, il termine sa causerie en invitant tous les esprits libres à cesser toute relation avec l'Église avec l'approbation du député. L'ironie de l'histoire veut que cet article du Petit Var se trouve non loin d'un avis de messe en l'honneur d'un lecteur décédé. Dans les éditions suivantes, Clemenceau s'en prend à un dominicain assyriologue du Collège de France et Ferrero à la racaille cléricale.
Dans ce livre, nous apprenons donc que les inventaires et la création d'associations culturelles ont eu lieu dans un calme relatif dans certaines régions. Dans le Var, comme nous venons de le voir, à Nîmes, Lyon et Rouen, les paroisses n'opposent également qu'une résistance passive. En revanche, la situation est plus tendue en Anjou, dans l'Ariège, l'Aveyron ou encore la Lozère. À Montpellier, par exemple, les pompiers enfoncent les portes de la cathédrale à coups de hache et en Franche-Comté, le plateau de Mèche connaît un véritable soulèvement. Enfin, ce livre, La séparation en province, fait également un point sur les évolutions de l'application de la loi dans les 20 années ou 30 années qui ont suivi et l'insertion des croyants dans l'espace public au travers de syndicats de salariés, des mouvements de jeunesse ou encore des œuvres sociales. Je vous rappelle donc le titre de ce livre, La séparation en province, recueil d'une série de contributions de la conférence des académies des sciences, lettres et arts, académie présente dans 21 villes de région. Ce livre est paru à l'occasion du centenaire de la loi 1905 aux éditions Academos. Merci à Fernand Guillot pour les lectures des extraits de ce livre. Bonne écoute de nos émissions sur Canal Académie.